La maison bonne fille.
L'évêque Thierry d'Hirson, de son vivant, possédait à Paris, dans la rue Mauconseil, un hôtel jouxte celui de la comtesse d'Artois, et qu'il avait agrandi en achetant la maison d'un de ses voisins nommé Julien Bonnefille. Ce fut cette maison, reçue en héritage, que Béatrice proposa à Robert d'Artois comme abri de leur rencontre. La promesse de s'ébattre en compagnie de la dame de parage de Mao, à côté de l'hôtel de Mao, dans une maison payée par les deniers de Mao, et qui de surcroît gardait le nom de Maison Bonnefille, il y avait en tout cela de quoi satisfaire le penchant naturel de Robert pour la farce. Le sort organise parfois de ces amusements. Néanmoins, Robert, dans les débuts, n'en usa qu'avec une extrême prudence. Bien qu'il fût lui-même propriétaire dans la même rue d'un hôtel où il ne résidait pas, mais qu'il venait visiter de temps à autre, il préférait ne se rendre à la Maison Bonnefille que le soir tombé. En ces quartiers proches de la Seine, où les voies étroites étaient encombrées d'une foule dense et lente, un seigneur tel que Robert d'Artois, de stature si reconnaissable et escorté d'écuyers, ne pouvait passer inaperçu. Robert attendait donc la chute du jour. Il se faisait toujours accompagner de Gilles Edenel et de trois serviteurs choisis parmi les plus discrets et surtout les plus forts. Gilles était la cervelle de cette garde, et les trois valets à point d'assommeur se plaçaient aux issues de la maison Bonnefille, sans livrer comme de quelconque badaud. Au cours des premières entrevues, Robert refusa de boire le vin aux épices que Béatrice lui offrait. « La donzelle peut bien avoir été chargée de m'enherber, » se disait-il. Et il ne se dévêtait qu'à regret de son surcot doublé d'une fine maille de fer, et tout le temps du plaisir gardait l'œil vers le coffre où il avait posé sa dague. Béatrice se délectait de voir pareille crainte. Ainsi, elle, petite bourgeoise d'Artois, fille non mariée à 30 ans passés et qui avait roulé dans toutes sortes de draps, pouvait inspirer crainte à un tel colosse et un si puissant pair de France. L'aventure avait pour Béatrice, plus encore que pour Robert, tout le piment de la perversité. Dans la maison de son oncle l'évêque, et avec le mortel ennemi de Madame Mao, à laquelle, pour excuser ses absences, Béatrice devait compter sans cesse de nouvelles fables. La Divion était réticente. Elle ne céderait pas d'un coup, et ce serait folie que de lui verser forte somme pour laquelle elle pourrait ne vendre que gros mensonges. Non, il fallait la voir souvent, lui extirper bribe par bribe les intrigues du mauvais Monseigneur Robert, lui faire livrer le nom des témoins de complaisance, et ensuite vérifier ses dires, aller trouver le sieur Juvigny au Louvre, ou Michelet Guéroux, le valet du notaire Tesson. Ah, tout cela n'allait pas sans peine, ni temps, ni monnaie. Il conviendrait, madame, de donner une pièce d'étoffe à ce clerc pour sa femme. Sa langue se délira. M'autorisez-vous à vous prendre quelques livres ? Et le plaisir de regarder madame Mao dans les yeux, de lui sourire, et de penser, il y a moins de 12 heures, je me ferai toute dépouillée à messire votre neveu. » À voir sa demoiselle de parage tant se dépenser à son service, Mao la rabrouait moins, lui montrait de nouveau de l'affection et ne lui ménageait pas les gâteries. Pour Béatrice, c'était une occasion doublement exquise de jouer Mao tout en s'appliquant à conquérir Robert. Car on ne saurait prétendre avoir conquis un homme parce qu'on a passé 1 heure avec lui, au même lit. Pas plus qu'on est maître d'un fauve parce qu'on l'a acheté et qu'on l'observe à travers les grilles de la cage. La possession ne fait pas le pouvoir. On est le maître, vraiment, que lorsqu'on a si bien travaillé le fauve, qu'il se couche à la voix, rentre les griffes, et qu'un regard lui sert de barreau. Les défiances de Robert étaient pour Béatrice comme autant de griffes à limer. En toute sa carrière de chasseresse, elle n'avait jamais eu l'occasion de piéger si grand gibier et réputé si féroce que c'en était proverbe. Le jour où Monseigneur Robert consentit à accepter de la main de Béatrice un gobelet de grenache, elle connut sa première victoire. J'aurais donc pu y mettre du poison, et il l'aurait bu. Et quand une fois il s'endormit, pareil à l'ogre des fabliaux, alors elle éprouva le sentiment du triomphe. Le géant avait au cou une démarcation nette, là où se fermait la robe ou la cuirasse. La teinte brique du visage tanné par le grand air s'arrêtait brusquement et au-dessous commençait la peau blanche, tavelée de taches de son et couverte aux épaules de poils roux comme la soie des porcs. Cette ligne semblait à Béatrice la marque toute tracée pour le tranchant d'une hache ou le fil d'un poignard. Les cheveux couleur de cuivre frisés en rouleaux sur les joues s'étaient déplacés et laissaient apparaître une oreille petite, délicatement ourlée, enfantine, attendrissante. On pourrait, pensait Béatrice, dans cette petite oreille, enfoncer un fer jusqu'à la cervelle. Robert se réveilla en sursaut au bout de quelques minutes avec inquiétude. « Eh bien, monseigneur, je ne t'ai pas tué, » dit-elle en riant. Son rire découvrait une gencive rouge sombre. Comme pour la remercier, il relança au jeu. Il lui fallait avouer qu'elle le secondait bien, inventive, sournoise, peu ménagère de soi, jamais rechigneuse et criant fort sa joie. Robert, qui pour avoir troussé toutes sortes de cottes, soit lin ou chanvre, se croyait grand maître Henri Baudry, devait reconnaître qu'il avait trouvé là plus forte partie. « Si c'est au sabbat, ma petite mie, lui disait-il, que tu as appris toutes ces galanteries, on devrait davantage y envoyer pucelle. » Car Béatrice lui parlait souvent du sabbat et du diable. Cette fille lente et molle en apparence, ondoyante de démarche, traînante en sa parole, ne révélait qu'au lit sa vraie violence, de même que son discours ne devenait rapide et animé que lorsqu'il s'agissait de démons ou de sorcellerie. « Pourquoi ne t'es-tu donc jamais marié ?» lui demandait Robert. « Les époux n'ont pas manqué à se proposer, surtout si tu leur as donné tel avant-goût du mariage. »« Parce que le mariage se fait à l'église, et que l'église m'est mauvaise. » Agenouillée sur le lit, les mains aux genoux, l'ombre au creux du ventre, Béatrice, les cils bien ouverts, disait « Tu comprends, monseigneur, les prêtres et les papes de Rome et d'Avignon n'enseignent pas la vérité. Il n'y a pas un seul Dieu. » Il y en a deux, celui de la lumière et celui des ténèbres, le prince du bien et le prince du mal. Avant la création du monde, le peuple des ténèbres s'est révolté contre le peuple de la lumière, et les vassaux du mal, pour pouvoir vraiment exister, puisque le mal est le néant et la mort, ont dévoré une partie des principes du bien. Et parce que les deux forces du bien et du mal étaient en eux, ils ont pu créer le monde et engendrer les hommes, où les deux principes sont mêlés et toujours en bataille, et où le mal dirige puisque c'est l'élément du peuple d'origine. Et l'on voit bien qu'il y a deux principes, puisqu'il y a l'homme et la femme, faits comme toi et comme moi, de manière diverse, poursuivait-elle avec un sourire avide. Et c'est le mal qui chatouille nos ventres et les pousse à se joindre. Or, les gens dans lesquels la nature du mal est plus forte que la nature du bien doivent honorer Satan et faire pacte avec lui pour être heureux et triompher en leurs affaires, et ils ne doivent rien faire pour le Seigneur du bien qui leur est adverse.